l'actualité des idées dans la dernière partie de la Grande Table avec vous, Antoine Mercier, qui avait déjà commencé à parler. Retour vers le passé aujourd'hui avec un ouvrage aussi dense qu'original, une histoire mondiale de la France qui paraît demain au Seuil. Une histoire accessible et ouverte sous la forme familière de la chronique en 146 dates par 122 chercheurs avec une ambition, réconcilier l'art du récit et l'exigence critique. Un ouvrage collectif dirigé par notre invité, l'historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. Prononcé fin 2015, peu après les attentats du 13 novembre, sa leçon inaugurale a fait date. Ce que peut l'histoire, c'est aussi de faire droit au futur non advenu, à ses potentialités inabouties. Ce que peut l'histoire a été publié par les éditions Fayard. Il fait suite à Prendre date, chez Verdier, écrit avec Mathieu Riboulet dans L'après Charlie. Prendre date, on n'écrit pas pour autre chose, nommer et dater, cerner le temps, ralentir l'oubli, tenter d'être juste, n'est-ce pas ce que requiert l'aujourd'hui? Sans hâte, oui, mais il ne faut pas trop tarder non plus. En historien soucieux du présent et de le penser, ce présent, vous l'aurez compris, et d'interroger la responsabilité de l'historien d'aujourd'hui, Patrick Boucheron, le médiéviste, est également l'auteur de Comment se révolter, dernièrement chez Bayard, ou encore en 2013 de Conjurer la peur au Seuil et de Pour une histoire monde, avec son complice l'historien Nicolas Delalande, première pierre posée, quelque part, à ce vaste édifice qu'est Histoire mondiale de la France et qu'il vient nous présenter. Patrick Boucheron, bonjour.
Bonjour.
L'opportunité peut-être est le sens de cette démarche, de cet ouvrage. D'abord, la publication de cette histoire mondiale de la France à quelques mois de la présidentielle où la question identitaire et nationale occupera probablement, elle l'occupe déjà, une place large, importante dans les débats. C'est pas anodin ?
Non, c'est pas anodin parce que, évidemment, vous venez de le dire, l'histoire s'invite régulièrement dans l'agenda politique et dès lors que nous avons une grande échéance, on sait bien que on va leur demander de s'expliquer aussi avec l'histoire de France. Et en même temps, vous faisiez allusion à prendre date. Nous sommes le 11 janvier. C'était il y a 2 ans que, d'une certaine manière, peut-être pas l'idée, mais en tout cas, je dirais la nécessité de ce livre a commencé sans doute à se faire jour. C'est-à-dire ce moment où on comprend à voir le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de monde, s'inviter dans les rues de Paris, que quelque chose se dit sur la France qui serait pas forcément plus haut, plus grand que la France, mais qui ne serait pas la France si elle ne s'expliquait pas avec le monde. Et dans ce livre, très singulier, aussi singulier que celui dont on va parler est collectif, déjà, avec Mathieu Riboulet, on disait ce qui allait être l'étincelle, au fond, du livre à venir. Ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France. Michelet, 1831.
Ce que l'histoire soit depuis bien longtemps déjà un savoir critique sur le monde et dont un art d'acclamation ou de détestation est une idée qu'on pouvait croire acquise, elle rencontre tant d'adversaires aujourd'hui qu'il est bon de la défendre à nouveau, clarifiez-vous en effet, en ouverture de cette histoire mondiale de la France. Patrick Boucheron, le récit national, c'est quand même assez touchy comme matière aujourd'hui à manier, comme un nécessaire retour aux racines. Peut-être nos responsables politiques se disputent depuis un moment sa définition, chacun avec sa vérité, en réponse à ces tentatives d'assignation. Et plutôt que de se recroqueviller, vous faites donc le choix, ou en tout cas la proposition, on va y revenir, de l'ouverture au monde, vous l'évoquiez, et celui d'une lecture pluraliste contre les rétrécissements identitaires. Votre démarche, proposer quelque part un contre-récit ou un autre récit, est-elle politique ?
Alors ce n'est pas tout à fait un contre-récit, puisque précisément, à partir du moment où tant de gens, et ça sature un peu, évidemment, on l'entend bien, comme un bruit de fond, l'espace médiatique, tant de gens se prêtent à l'exercice de raconter sans scrupule, les historiennes et les historiens professionnels ne peuvent pas se contenter d'être des professionnels du scrupule. De répéter comme ça, comme un mantra, mais c'est plus compliqué que ça, mais non, ça s'est pas exactement passé ainsi, mais au fond, Vercingétorix, c'est oui, d'accord, tout est beaucoup plus compliqué qu'on le dit, mais en même temps, si on ne prend pas à bras le corps cette nécessité du récit, ce désir de raconter et d'expliquer aussi comment le temps peut se scander en date, puisque ce livre est en fait rythmé par des dates, quoi de plus banal, quoi de plus familier qu'une chronologie. Alors on tente un peu de la subvertir, voilà. Et cette manière de faire, et vous l'avez dit, un engagement. Ailleurs on dit c'est un discours engagé et savant. Pourquoi est-il savant ? Parce qu'il est collectif. Pourquoi est-il engagé ? Parce qu'il est collectif. C'est-à-dire que croire aujourd'hui en une intelligence collective, c'est aussi une forme d'engagement.
Mais c'est un engagement purement intellectuel ou c'est aussi, et je reviens à ma question, un engagement politique, voire citoyen pour vous dans cette démarche?
C'est un engagement dans le travail intellectuel qui espère avoir un impact politique par le fait même que c'est un rappel à la réalité du métier. On n'écrit pas comme ça une histoire de France, de sa seule, d'une plume alerte et virevoltante. On est plusieurs, parce que, non pas par déficit d'autorité ou de science, mais par choix, parce que c'est une œuvre collective, polyphonique, qui cherche à faire droit à la diversité de la France. C'est-à-dire que il s'agit pas de dire que c'est pas un choix de dire que l'histoire de France est mondiale. C'est pas un choix de dire qu'elle est culturellement diverse. C'est ainsi. Elle est comme ça. Et depuis très longtemps. Et il faut simplement, contre les discours mensongers qui affirment le contraire, non pas opposer des principes, mais des faits. La réalité du fait.
Est-ce que c'est une bataille d'en haut ? On entend les responsables politiques nous parler du roman, du récit national. Vous, les universitaires, 122 pour cet ouvrage collectif, vous avez donc fait le choix de réécrire à votre manière cette histoire mondiale de la France. Est-ce qu'il y a pour vous un besoin d'histoire aussi du point de vue de la population, des Français ? Est-ce qu'ils sont pour vous en attente de cette nouvelle écriture de l'histoire ?
En tout cas, il est certain qu'il serait inconséquent pour nous de ne pas répondre à ce qu'on sent bien être, sinon une injonction ou une attente, parce qu'il est toujours difficile de le déclarer. On sait bien que ce sont souvent des intermédiaires qui disent ce que attendent les gens. En tout cas, un besoin, un désir, un appétit.
Vous savez, vous le sentez, ce besoin, cet appétit, ben, justement.
Écoutez, vous voyez bien qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui intéresse. On peut pas dire que l'histoire n'intéresse pas.
Et pourquoi elle intéresse, en fait? C'est peut-être la deuxième question. Pour se rassurer avec l'histoire, pour s'éclairer à la lumière du passé. Comment les historiens peuvent répondre, en gros, à cette attente
sociale
et collective?
Mais d'abord, vous savez, quand on est un historien ou une historienne professionnelle, on cherche toujours de manière bien contournée, bien compliquée, à se justifier et à s'excuser de vivre en disant « Ah, mais moi je fais du Moyen-Âge parce que ça éclaire le présent ». Mais non, la plupart des gens trouvent ça simplement intéressant. C'est intéressant. Et donc, à se priver de cette curiosité-là, eh bien, on se condamne à être moins bien entendu que d'autres, peut-être moins scrupuleux. Donc, au départ, vous savez, c'est simple. Voilà, moi, j'ai le plaisir et l'honneur de travailler au Seuil avec une équipe énergique qui s'est entièrement mobilisée dans cet objet qui est d'abord un objet éditorial. Et donc, avec Séverine Niquel, avec qui je travaille, on s'est dit, bon, allez, on va essayer quand même de reprendre la main. De reprendre la main, d'arrêter de sans cesse reculer. Ça se entendez-le comme vous le voulez. Entendez-le politiquement, entendez-le intellectuellement, éditorialement, mais vous voyez bien quand même que on a du mal à tenir notre ligne. Alors c'est tout simple. Alors on a pris effectivement une équipe de coordination, Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin, Pierre Singaravelou. Alors on a demandé à des historiennes et à des historiens de s'engager avec nous, d'écrire, 120, et ils écrivent, là encore, sur ce qu'ils savent, et ils s'engagent à sortir de leur zone de confort, et on leur dit 10 000 signes pour raconter la bataille d'Alésia, pour raconter l'édit de Villers-Cotterêts, pour raconter la rafle du Veldive, et on y va. Et on y va parce que, d'une certaine manière, il y a cette nécessité
de reprendre la main.
De reprendre la main.
Antoine, merci. Alors,
122 historiennes, historiens, 146 dates pour cette histoire mondiale de la France. Faut bien redire ce titre-là avec « mondial » écrit en rouge. C'est une histoire mondiale de la France, pas une histoire de la France mondiale. Et vous nous avez expliqué tout à l'heure que c'était dans cette interaction avec le monde que la France pouvait être aussi elle-même. Et c'est ça qui était souligné. Il n'empêche que, malgré tout, on a le sentiment d'une forme de pointillisme. C'est-à-dire qu'il y a ces 146 événements.
Vous avez raison.
Et c'est pas qu'il n'y a pas de récit, on sait à chaque fois que c'est la France avec le monde qui est en jeu, mais ça ne fait pas une continuité. Est-ce qu'il n'y a pas de continuité de la France dans le monde aussi ?
Ça ne fait pas une continuité. Je suis heureux de l'entendre, parce que l'histoire que j'aime n'a ni commencement ni fin. Elle n'a pas de fin, parce que nous ne sommes pas orientés par un devenir qui nous oblige. Il n'y a pas une identité française qui nous assignerait un destin obligé. Elle n'a pas de commencement, parce que s'il y a bien une question à laquelle les historiennes et les historiens doivent opposer poliment, bien sûr, une fin de non-recevoir, c'est la question des origines. Donc, on commence le plus tôt possible avec la grotte Chauvet. On achève en 2015 pour les raisons que je vous ai dit. On périodise un petit peu par séquence parce qu'on n'a pas envie que les gens soient perdus et croire que cette histoire est émiettée en différents événements disparates. Il y a quand même l'idée qu'il y a quelques grandes scansions, quelques périodes. Il y a des moments où la France s'explique davantage avec le monde. La chronologie se resserre sous Louis XIV, sous pendant l'époque des Lumières et de la Révolution, à nouveau après 1860. Et puis, bon, voilà, en même temps, on revendique
l'époque où la France était plus mondiale qu'elle ne l'est peut-être aujourd'hui. Et c'est justement pour ça que la question se pose. Je crois qu'il faut peut-être prendre quelques exemples aussi.
146 dates, voilà, de la Grotte Chauvet 2015, dates. Avec Emmanuel Laurentin de France Culture. Quelques exemples, 212, Maurice Sartre étudie l'édit de Caracalla, révolution juridique et fiscale qui fait exploser la liberté comme privilège politique. En 719, l'Afrique frappa à la porte du pays des Francs, nous rappelle François-Xavier Fauvel. Le 1er octobre 1550, Yann Lignereux relate le retour festif du roi Henri Ier dans sa ville de Rouen. 1784 est l'année où Sade fut, par lettre de cachet royal et à la demande de sa belle-mère, embastillé jusqu'en 1789. Anne Simona retrace cette affaire politico-judiciaire, littéraire, pardon. 14 février 2003, Leïla Dakhli revient sur le discours prononcé à l'ONU par Dominique de Villepin et trace les contours d'une politique arabe de la France. Il reste 141 date, je ne peux pas toutes les citer, mais vous nous avez expliqué en gros ce qui avait présidé à ce choix. Qu'est-ce qui devait faire ici événement pour vous, Patrick Boucheron ? Une histoire de France écrite à plusieurs mains et avec une liberté de choix totale sur les dates pour les auteurs, les chercheurs. Il y a forcément des dates sur la frise chronologique qui n'ont pas été retenues et que vous regrettez peut-être, vous, Patrick Boucheron, de ne pas voir figurer dans cette somme et qui rendent incomplète cette histoire de France ?
Alors, elle est incomplète parce qu'elle est à venir. C'est-à-dire que nous ne prétendons pas faire l'histoire mondiale de la France, mais commencer à y contribuer dans un mouvement historiographique qui est assez banal en Europe. C'est-à-dire que déjà, nous avons des histoires transnationales de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, où c'est précisément un enjeu politique très fort, et en particulier depuis le Brexit. Aujourd'hui, nous avions évidemment des choix à faire, précisément parce que nous souhaitions pas le contre-récit. Parfois, on décale un petit peu. Vous venez de le dire, 719, c'est pas la bataille de Poitiers, parce que la bataille de Poitiers, je pense qu'on nous en a rabattu les oreilles, et que la seule chose qu'on pourrait dire, c'est que elle n'a pas tout à fait eu lieu, ou pas comme on le croit, ou en tout cas c'est une reconstruction, etc. On n'a pas envie d'être effectivement des professionnels de la déconstruction. Mais donc, si on doit parler... oui, Charlemagne a bien été couronné en 800. Voilà. Et il n'y a pas de raison de ne pas en parler, mais on peut en parler différemment, en montrant qu'à ce moment-là, l'Empire, eh bien, il s'impose contre un concurrent, enfin, en tout cas la renaissance de l'Empire occidental, qui, lui, est bel et bien là, et qui est l'héritier de cet Empire romain dont Maurice Sartre raconte l'histoire, c'est l'Empire byzantin. Et donc, pour comprendre Charlemagne, eh bien, il faut l'intégrer dans une carte élargie des empires.
Et ce premier rendu, en tout cas vous, Patrick Boucheron, vous convient ?
Oui, ça me convient parce que...
Ça vous semble équilibré. Il manque rien.
Non, alors là, je peux vous dire quelque chose, c'est que dès que le livre paraît, et c'est demain, en fait, qu'il sera en librairie, évidemment,
on est assailli par des regrets.
On se dit, mais voilà, pourquoi il n'y a pas
un tel ? Il va y avoir des remords et des regrets, peut-être.
Des remords et des regrets.
Mais ils n'ont pas commencé à naître. Une histoire mondiale de la France, Antoine Mercier, c'est-à-dire comment des événements qui ont eu lieu ont été perçus ou ont eu des répercussions ailleurs. Il tient de là, ce mondial. Pourquoi avoir voulu décentrer le regard ? Vous citiez tout à l'heure Jules Michelet, ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France.
Écoutez, vous y faisiez allusion. J'ai eu avec, d'ailleurs, une partie des gens que j'ai réunis ici en 2009, une première expérience qui s'appelait « Histoire du monde au XVe siècle ». Et à partir de ce moment-là, en 2009, justement, il y avait aussi un certain contexte politique où une injonction gouvernementale forte nous demandait de participer à un débat sur l'identité nationale. On a opposé. Comme au fond, un dialogue de sourds qui s'entend très bien, histoire de France, histoire du monde. Alors, vous faites l'un ou l'autre? Et si on fait l'un, c'est contre l'autre? Mais pas du tout, on n'a rien contre l'histoire de France. C'est pas un objet illégitime, bien au contraire. Simplement, les historiens l'avaient un peu désinvesti. C'est pour ça que d'autres, moins scrupuleux qu'eux, s'y étaient engouffrés. Donc il s'agit, au fond, non pas de réconcilier, de ramener la France à des proportions, l'objet Histoire de France, à des proportions qui à la fois disent quelque chose de très simple, c'est que comme n'importe quel pays, il s'explique par plus grand que lui, et en même temps d'essayer d'approcher, vous parliez de Michelet, ce qui était pour Michelet le mystère de l'Histoire de France, mais lui-même était un fils de la Révolution française, qui est qu'à certains moments, eh bien, les Français ou leurs dirigeants peuvent avoir l'ambition ou l'illusion que la France contient, englobe le monde tout entier. Et cette question de l'universalité, qui a bien été le problème qui nous a, dont on ne sait jamais si on est au fond, si on est toujours à la hauteur de cette idée là. On a tenté de la prendre à bras-le-corps.
Vous venez de dire que la plupart des nations, en tout cas, avaient cette visée universelle. C'était à la fois des nations particulières avec des visées universelles. Et c'est ça qui les constitue en tant que nation. Mais en ce qui concerne la France, ce qui est intéressant peut-être de repérer dans toute cette recherche, dans tous ces articles, c'est peut-être les domaines, plus particulièrement, dans lesquels la France, précisément, exerce sa compétence universelle. On va oui. peut dire ça comme ça. Et sur le plan historique, est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément si vous avez trouvé des points communs? Bon, moi j'avais notamment, je trouvais que l'histoire du maître par exemple était quelque chose de très frappant puisque c'est en 1875, ça s'appelle la mesure du monde. Il y a 17 États donc qui vont signer cette convention du maître, ça avait été inventé par la Révolution française et voilà que tout d'un coup voilà un maître, l'étalon qui vient s'installer au pavillon de Sèvres à côté de Paris, l'étalon du maître et c'est la France qui en dispose. Les Anglais bon, ne suivent pas mais malgré tout ça reste quand même quelque chose.
Il y a cette ambition là.
Voilà. Ça, c'est la norme, c'est la loi. Est-ce que, vous voyez,
c'est un moment. En tout cas, c'est un moment. C'est un moment de ce qu'on a appelé une mondialisation à la française qui commence en 1860 et puis qui s'achève, hein, évidemment. C'est une histoire. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que, au fond, et là encore, on a quand même aussi une idée derrière la tête, c'est de couper l'herbe sous le pied du déclinisme. Pourquoi faire toujours l'histoire de la France comme une chronique désespérante des occasions manquées et des échecs. Oui, il y a certains moments où on se souvient que la France est une puissance moyenne comme Finistère de l'Eurasie. Mais c'est pas des échecs, c'est juste des retours à la normale. Et puis il y a des moments très fictionnels. Ou d'une certaine manière, où le discours de Villepin en est un exemple, où, au fond, elle se rappelle au souvenir de l'imagination des nations. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que cette façon de rendre, au fond, raison à tous les devenirs possibles, c'est de montrer une histoire qui n'est pas nécessairement hésitante. Et d'ailleurs, au fond, Vous le dites, y a Pasteur, y a Marie Curie, y a des écrivains. Alors ces écrivains ont choisi, par exemple, Frantz Fanon, on aurait pu choisir Jean-Paul Sartre, mais il y a aussi Simone de Beauvoir, mais il y a aussi Aimé Césaire. Et puis on a aussi des plus inattendus, 1105 morts de rachis. Le rabbin de Troyes montrait que, au fond, un des premiers écrivains français écrivait en hébreu, mais disait du français que c'était, je le cite, notre langue. Au fond, en quoi notre récit serait contraire à la grandeur de la France? En quoi au fond, dire que d'un pays qu'il est intégré au monde, l'étrécirait, c'est quand même une idée très étrange.
Et à propos de soft power, pour parler pas français, et justement du soft power de la langue, 1539, l'Empire du français, ça c'est une date que vous signez, vous, Patrick Boucheron, Villers-Cotterêts. Là encore, pourquoi c'est une date importante de revenir sur cette ordonnance de Villers-Cotterêts?
Et en quoi c'est universel aussi? En quoi ça a une vision universelle?
Alors en quoi c'est universel? Justement, donc en 1539, François Ier à Villers-Cotterêts signe un édit qui fait de la langue française la langue du roi, la langue de l'administration. Essentiellement contre le latin, qui était une langue d'initié, qui servait à ceux qui maintenaient, enfin voilà, qui détenaient le savoir et le pouvoir à parler entre eux. Bon, donc c'est un idéal de transparence au fond du gouvernement politique. Contrairement à une idée tenace, ce n'est absolument pas une illustration du français contre les langues régionales. Mais on a commencé à le dire au XIXe siècle et précisément à un moment où on luttait contre les langues régionales. Pourquoi ? Eh bien parce que rien n'est plus étranger à l'esprit de la Renaissance que d'imaginer que la langue puisse être un vecteur de la construction de la nation. Donc le français n'est pas une langue nationale, c'est une langue impériale.
Oui, ça s'appelle l'Empire du français.
Ça s'appelle l'Empire du français. Et d'autres, ce texte, parce que ce qu'il faut dire, c'est
Mais alors ça veut dire quoi exactement, ce que vous dites?
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une manière, vous m'invitez à expliquer comment on circule dans ce livre, parce qu'il y a des renvois. C'est-à-dire qu'on a malicieusement foré des petits souterrains dans le livre qui permettent d'aller dans des galeries comme ça, d'une date à l'autre. Alors ça renvoie en arrière, 842, les sermons de Strasbourg. Et puis ça renvoie en avant la francophonie, la naissance de l'Alliance française. Pourquoi ? Parce que il y a eu un moment où effectivement, justement, l'inventeur du mythe de Villers-Cotterêts, Ferdinand Buisson, le grand linguiste et républicain, disait « On a parlé du monde romain, on parlera bientôt du monde français. » Pourquoi ? Ça veut dire que tout le monde parle français. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, depuis le XVIIIe siècle, le monde est une conversation. Je cite là un article d'Antoine Lilti, c'est-à-dire que l'idée que c'est la langue des élites européennes, le français, eh bien construit aussi une certaine conception du monde. Donc, d'une manière générale, vous savez, ce qui est aujourd'hui un des acquis historiographiques, c'est ce qu'on appelle l'histoire impériale. Ça, c'est quand même aujourd'hui très très ancré dans nos pratiques. C'est pour ça que c'est pas une histoire de la France mondiale, parce que une histoire de la France mondiale, c'est l'histoire de ses influences, de ses conquêtes et de ses remords. Bon, ça, c'est bien en cours, mais c'est déjà en cours comme révolution historiographique. Mais considérer au fond que ce qu'on a pris pour national est très souvent impérial est aussi une manière de revisiter notre histoire.
Mais quelle différence entre impérial quand même et conquête? Parce que c'est ça, c'est ce que ça veut dire, que c'est simplement du rayonnement, que ce n'est pas de la violence?
Là, en l'occurrence, effectivement, vous lisez les mémoires de Casanova, il explique que le français est la langue internationale des élites cultivées en Europe. On ne les oblige pas à parler français. Donc oui, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une influence. Mais c'est finalement plus globalement une intégration culturelle.
France Culturelle, 13h20.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Notre invité, l'historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, qui a dirigé un ouvrage « Somme, histoire mondiale de la France » qui paraît demain au Seuil, 146 dates pour raconter la France à votre manière. On a parlé un peu d'histoire, on a parlé un peu de mondial, on a parlé aussi un peu de la France. Mais justement, c'est quoi la France, Patrick Boucheron? On décentre les regards, mais on regarde quoi? Quelle France? Une France qui reste le centre du monde et de son histoire à travers les siècles, forte de ses ambitions civilisatrices, coloniale que vous nous racontez, ou c'est une France hexagonale, un petit point aujourd'hui sur la map monde que vous observez?
je suis vraiment obligé de répondre à cette question. C'est vrai que c'est toujours embarrassant. Et en même temps, vous avez raison de me la poser, parce que si les historiens ne répondent pas à cette question, eh bien d'autres s'empresseront de le faire pour eux. C'est la question de l'identité de la France. La question de l'identité de la France, elle a été... Vincent Martigny en a fait l'histoire, une histoire intellectuelle. On l'identifie aujourd'hui à une question de droite, mais ça n'a pas toujours été une question de droite, au fond. Même historiquement, elle est plutôt née à la fin des années 70, dans un effort de définir culturellement, et par une culture qui serait évidemment diverse, une identité nationale qui va ensuite, en 1981, être défendue et illustrée par la politique culturelle de Jack Lang, etc., ce qu'on appellera l'exception culturelle. Et c'est à partir de 1985, c'est-à-dire au moment même d'ailleurs, ou de la mort de Fernand Braudel, dont le livre L'identité de la France est un livre qui est posthume et inachevé, mais qui en lui-même porte ce basculement. C'est à partir de ce moment-là que ce thème devient un thème, disons, identifié à droite. Et je pense que les historiennes et les historiens auraient tort de ne pas commencer à répondre à cette question-là. Voilà. Mais pas en disant la France est identique à elle-même de toute éternité.
C'est une question qui se posait déjà il y a plus d'un demi-siècle. L'historien Lucien Febvre, que vous citez, dit d'ailleurs qu'il faut déjouer l'idée d'une France nécessaire, fatale, préfigurée. La civilisation française, écrivait-il par ailleurs, a toujours débordé largement les limites de la France politique, de l'État français ramassé au-dedans de ses frontières. Et de le savoir, ce n'est certes pas une diminution, c'est un élargissement, c'est même une source d'espérance. François Fillon, qui prône une refonte des programmes, les abroger, puis demander à trois académiciens de nom de s'entourer des meilleurs avis afin de les réécrire avec l'idée de les concevoir comme un récit national. L'histoire, cette récitation sans aspérité, Patrick Boucheron, elle est si mal racontée qu'il faille en permanence la réécrire ou prétendre la réécrire.
Précisément, le travail d'un historien, c'est pas de réciter l'histoire, c'est de l'écrire.
Voilà. Et de la réécrire.
Et de la réécrire. Sinon, alors franchement, si on ne le faisait pas, vous seriez en droit de nous reprocher de ne pas le faire et d'occuper des positions indûment.
Ça veut dire qu'il y a une vérité judiciaire, mais il n'y a pas une vérité historique.
Écoutez,
ça, c'est
très simple, il suffit. Alors, la vérité de l'histoire, elle se construit, elle ne se constate pas. Et c'est effectivement en travaillant par des méthodes qui sont des méthodes patientes et dont on sait bien aussi qu'elles sont à un moment donné éprouvées comme dans un état de mémoire et d'histoire qui fait qu'il nous suffira au fond de reconsidérer n'importe quel événement de l'histoire à différentes époques pour le voir différemment. Mais dire cela, ce n'est pas jeter un doute sur la vérité du fait, c'est simplement rappeler les exigences de méthode de ceux qui décrivent et écrivent ce fait. Voilà. Donc, il n'y a pas à s'indigner du fait que l'histoire est un savoir critique sur le monde qui se construit effectivement dans le débat. Il n'y a pas à exiger des historiens une neutralité de point de vue qu'ils n'ont pas.
Mais s'ils ne sont pas neutres, qu'est-ce qui les engage alors, les historiens?
L'honnêteté de
la vérité historique.
C'est comme les journalistes en fait.
La probité. Voilà. C'est ça. Attendez des historiens et des historiennes une probité et le respect des règles du métier. Et j'en profite pour dire, puisque vous parlez des journalistes, qu'il ne suffit pas d'être historien pour respecter les règles du métier et que les historiens ne sont pas les seuls à respecter les règles du métier. Donc, c'est pas une question professionnelle. On défend pas un statut. Mais simplement, il y a aussi un moment, vous parliez effectivement de candidats à l'élection présidentielle qui, de manière un peu routinière, reviennent, mais on va pas se mentir, c'est pour des raisons de positionnement pour l'instant, sur la question l'écriture des programmes. Écoutez, on verra bien, mais il y a un moment aussi où chacun doit faire son métier.
Positionnement, mais avec des enjeux juste quand même, réconcilier histoire critique et art de la narration, c'est la méthode que vous avez choisie, et sur cette idée de probité que vous mettez en avant, est-ce qu'il n'y a pas quand même, avec cet art de la narration, un risque de simplifier, d'enjoliver peut-être l'histoire, de la romancer finalement? Et là, on en revient au roman national.
Alors, Enjolivé, je ne sais pas. Je ne suis pas absolument persuadé que l'histoire que nous proposons soit aussi enchantée qu'on commence à le dire. Vous avez rappelé opportunément au début combien elle s'inscrivait dans une forme assez grave de questionnement sur l'aujourd'hui. Oui, on prend un risque. Oui, c'est plus difficile, effectivement, de s'engager dans un récit qu'on espère point trop mensonger que de se contenter à de dénoncer tout ce qui existe déjà. Oui, c'est plus facile de regretter que des livres aient un succès qu'ils ne méritent pas que de tenter d'écrire des livres qui mériteraient leur succès.
Vous pensez à qui ?
Ben non, mais je pense à rien. En réalité, j'essaye de faire. Voilà, maintenant, il y a un moment, si vous voulez, où l'histoire, c'est pas justement un art de proclamation, mais d'exécution. Voilà. Donc il y a un moment où il faut proposer des choses.
Voilà. Vous proposez une troisième voie entre le déclinisme et l'identitaire. C'est-à-dire que vous dites la France, elle a dans son histoire, et vous le montrez, une forme de grandeur qui précisément ne tient pas à une identité figée, mais au contraire à ce rapport avec l'histoire. Or, quand on regarde les dernières séquences du livre, quand même, les dates, les dernières dates, oui, on se rend compte que ça faiblit un petit peu au niveau du rayonnement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aujourd'hui un problème relativement à cette relation au monde pour la France et de cette influence?
On s'est posé la question, évidemment, de la coloration ou de la teneur que les derniers textes allaient effectivement produire dans l'esprit du lecteur. 2015, ça paraît évident. Hein. Mais 2015, c'est le texte d'Emmanuel Laurentin qui s'appelle Le Retour du drapeau et quelque chose.
Avant, il y a Strauss-Kahn, bon.
Oui, 2003. Bon. Oui, 2011, bon. 2003, bon. Je vais vous dire quelque chose. On est à ce moment-là, le livre s'achève dans une séquence où justement vous parliez du rapport au journalisme, et ce n'est pas un hasard si on demande à un journaliste comme Emmanuel Laurentin de l'écrire, où l'historien au fond vous passe la parole à vous les journalistes. Et c'est pour ça que la séquence s'appelle Aujourd'hui en France. Je ne sais pas la qualifier. Je ne sais pas ce qui va devenir. Je dis que c'est Aujourd'hui en France. Ce qui va advenir, c'est ce que nous déciderons ensemble, collectivement. Voilà.
Merci beaucoup Patrick Boucheron. On aura l'occasion de reparler de l'histoire mondiale de la France sur l'antenne de France Culture. L'ouvrage paraît demain au Seuil. C'est un ouvrage collectif. Rappelons que vous, Patrick Boucheron, vous avez commencé à donner des cours sur les fictions politiques au Collège de France. Un séminaire sur l'expérience communale avait, lui, commencé il y a quelques temps. Pour vous resituer, à l'occasion de l'apparition de l'histoire mondiale de la France, une rencontre est organisée au Théâtre de la Colline avec 15 historiennes et historiens le samedi 14 janvier à 15h dans le Grand Théâtre. C'est public.
C'est public.
Tout le monde peut venir, mais c'est à Paris pour l'instant. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les infos en lien avec l'émission à la page de la Grande Table sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe.